Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Comme chaque jour, Franck Ferrand vous nous propose de laisser de côté nos certitudes pour essayer de comprendre, sans préjugés, sans a priori, un grand moment du passé. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Des préjugés, des a priori, on en a beaucoup véhiculé, vous savez, sur le grand sujet d'aujourd'hui, le procès intenté à Galilée devant le tribunal du Saint-Office à Rome au premier tiers du XVIIe siècle. Galilée, c'est ce grand savant condamné pour avoir soutenu la théorie copernicienne selon laquelle la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais un astre en rotation sur lui-même et autour du Soleil. Cette condamnation est devenue pour des siècles le symbole d'une science moderne opprimée par l'obscurantisme religieux. Il n'est pas rare de voir Galilée présenté comme un grand astronome, philanthrope, sage, alors que ses juges seraient autant d'ignorants, d'irresponsables, en quelque sorte des gens du Moyen-Âge.
Quelque chose me dit que vous avez un autre point de vue.
Oui, alors attention Caroline, loin de moi l'idée de défendre une condamnation certes injuste et brutale, mais ce que nous allons voir en effet, c'est que les idées fausses sont légion sur ce sujet. Galilée n'était pas astronome mais physicien, il était moins philanthrope que carriériste et plutôt qu'un sage, c'était un polémiste redoutable. Quant à ses juges, ils étaient en vérité très savants et pas irresponsables, au contraire, ils étaient sans doute trop conscients, beaucoup trop conscients de leurs responsabilités.
Je sens que les réactions vont être nombreuses sur le site d'Europe.
Eh bien tant mieux, de la discussion naît la lumière.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
C'est que Galilée n'avait pas la formation d'un astronome, c'est un point crucial de notre affaire. Il a 45 ans, cet homme-là, quand il s'intéresse vraiment pour la première fois à ce qui se passe dans le ciel. Jusque-là, il est physicien et enseigne les mathématiques à l'université de Padoue, près de Venise, donc il se consacre avant tout à la théorie. Seulement, il faut bien vivre, il doit nourrir la femme avec laquelle il vit maritalement, il doit nourrir ses trois enfants, sa belle famille, et donc il cherche à multiplier les revenus annexes. Il donne bien à certains jeunes gens de la noblesse des cours de physique appliquée aux techniques militaires, mais ça va pas très loin. Il lui faut plus et mieux. Alors, au rez-de-chaussée de son logis, il a installé une sorte de boutique dans laquelle il vend toutes sortes d'instruments scientifiques fabriqués par un artisan de grand talent qui s'appelle Mazzoleni et qui travaille sur les plans et les dessins du maître, naturellement. Or, au début de l'été 1609, alors qu'il est allé se rafraîchir un peu à Venise, Galilée apprend qu'un artisan flamand vient de fabriquer un appareil optique, une lunette, qui permettrait de voir des objets éloignés comme s'ils étaient deux, trois, quatre fois plus proches. Ça lui donne des idées. Il se met au travail et avec le concours très efficace de Mazzoleni, il met au point en 1610 sa propre lunette grossissante, sauf que la sienne ne grossit pas trois fois. Mais 30 fois. Vous imaginez l'enthousiasme des stratèges de la Sérénissime République qui, du coup, lui double ses appointements. En soi, cette réalisation est fabuleuse, mais ce qu'il y a de génial, c'est l'emploi que Galilée a très vite l'idée d'en faire. Dès cette même année 1610, le professeur tourne sa lunette vers la voûte astrale et il demeure sidéré par ce qu'il voit. D'un seul coup, tous ces corps célestes qui jusqu'ici avaient toujours paru un petit peu abstraits à tout le monde, voilà qu'ils deviennent concrets, présents, on voit les reliefs de la lune. Enfin, Galilée entrevoit la nature de la Voie lactée, il distingue de nouvelles étoiles, il va jusqu'à voir les satellites de Jupiter, même des taches dans le soleil. Et là, vous voyez qu'on est d'emblée dans des observations qui remettent en cause, évidemment, les vieilles traditions et les grands textes sacrés. Galilée a une méthode à la fois très simple et très moderne. Il observe, il en tire une hypothèse. Il met cette hypothèse à l'épreuve et tire des conclusions objectives qui confirment ou qui infirment l'hypothèse. À nous qui baignons dans un monde scientifique, ça paraît presque banal, mais à l'époque où l'écriture sainte est considérée comme la première source de vérité et l'avis des anciens, c'est-à-dire des grands savants de l'Antiquité, comme lui-même quasiment texte sacré, je vous assure que cette observation libre de la nature est tout simplement révolutionnaire. Le plus important peut-être concernant Galilée, c'est qu'il rompt purement et simplement avec l'approche littéraire des sciences. Je vous ai dit qu'il était lui-même mathématicien. Il a compris le premier que la réalité matérielle du monde ne devait pas être appréhendée avec des mots et des phrases, mais avec des chiffres et des équations. Ça, c'est un des grands basculements de la pensée occidentale et incontestablement, c'est à des hommes comme Galilée qu'on le doit. Alors peut-être faut-il que je vous dise un peu d'où il vient ce Galilée, comment il en est arrivé là. Il est né le 15 février 1564 à Pise, mais dans une famille florentine et qui d'ailleurs rentre à Florence alors que le petit Galiléo n'a que 10 ans. Le père Vincenzo est officiellement joueur de luth, mais il s'adonne surtout au négoce parce qu'il faut bien vivre. Galiléo retourne à Pise faire des études de médecine. Seulement, la médecine, on ne peut pas dire que ça lui plaise tellement. Plus exactement, ça ne correspond pas à sa vocation, car le jeune Galilée nourrit plutôt une grande passion pour l'univers physique. Ce qui l'entoure, et notamment ce qui est en mouvement, ça le fascine. C'est dans la cathédrale de Pise qu'il a sa première grande intuition scientifique en observant des lampes en suspension qui se balancent entre les piliers. Il les regarde, ces lampes, et il constate que quelle que soit l'ampleur du mouvement, quelle que soit la taille et donc probablement la masse du pendule, les périodes sont de même durée, elles sont à peu près d'une seconde. Le jeune Galilée vient tout simplement de constater le phénomène d'isochronisme des oscillations. Plus tard, il va se consacrer longuement au mouvement des corps physiques dans le vide et sur des plans inclinés, et il sera le premier à établir la loi de la chute des corps. À partir de 1592, donc, c'est là qu'il s'installe à Padoue, qu'il met au point toutes sortes d'instruments, notamment des thermomètres, des compas de visée, un instrument qu'il commercialise aux grandes dames de ses confrères. On peut dire que déjà Galilée, à cette époque, suscite des jalousies. C'est un homme déjà très connu et reconnu quand, en 1610 donc, il commence, grâce à la fameuse lunette, ses observations sur le cosmos. Il en tire très vite un petit ouvrage, « Le messager des étoiles », qu'il dédie au grand-duc de Toscane avec l'espoir de pouvoir rentrer à Florence le plus vite possible. Or, plus il observe le ciel et plus il se convainc, Galilée, de la véracité des théories de Copernic sur l'héliocentrisme, c'est-à-dire sur le fait que le Soleil se trouve au centre de l'univers. On dit l'univers parce qu'à l'époque, on ne sait pas encore qu'il existe d'autres galaxies. Ces travaux sont donc vieux de plusieurs décennies. Et tous les spécialistes les connaissent naturellement, ils les utilisent déjà, il faut bien le dire ça. Seulement ils n'en font pas état publiquement pour ne pas froisser l'Église, tout simplement. Le grand astronome de l'époque, Kepler, qui vient de confirmer la justesse du système copernicien et de le raffiner en établissant la nature elliptique des révolutions planétaires, eh bien Kepler estime que toutes ces recherches de pointe n'ont pas à être divulguées dans le grand public. C'est sans doute replacé dans le contexte de l'époque une attitude assez sage puisqu'elle n'entrave pas le progrès de la recherche tout en préservant l'équilibre mental d'une société qui est déjà déstabilisée à cette époque par toutes sortes de remises en cause. On est dans les suites immédiates de la Renaissance, de toutes les grandes découvertes, etc. Galilée, lui, va opter pour l'attitude opposée. Sans être astronome et tout en se trompant sur certaines réalités, par exemple, il cherchera à démontrer le mouvement de la Terre par le phénomène des marées, qui n'a rien à voir avec ça, Galilée va clamer haut et fort, et qui plus est dans des ouvrages en italien et non pas en latin, c'est-à-dire des ouvrages très accessibles, il va clamer la vérité, la véracité des thèses de Copernic. Or, qu'on le veuille ou non, ces théories sont contraires à la lettre de l'Écriture sainte, et ça, forcément, ça gêne un certain nombre d'ecclésiastiques. Je vous signale tout de même qu'au départ, les relations de Galilée avec la hiérarchie catholique étaient tout à fait excellentes. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce que nous allons voir.
Sur Europe 1 du téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu avec Claude Rich, une musique composée par Caroline Petit-Franc.
Ah oui, c'était déjà il y a 6 ou 7 ans ce téléfilm. Alors pour comprendre la longue polémique qui va mener au procès de Galilée, il faut revenir à l'éternelle opposition des élèves de Platon et de ceux d'Aristote. Vous allez dire ça y est, alors voilà avec Platon et Aristote. Ben oui, vous savez que d'un côté vous avez la théorie, aussi le besoin de vérité, d'explication globale. Ça, ce sont les platoniciens, dont saint Saint-Augustin et l'interprète chrétien. Et puis de l'autre côté, vous avez l'empirisme, la pratique, l'expérience avec un sens aigu de la nuance, du tâtonnement. Ça, ce sont les aristotéliciens. Et leur maître chrétien, c'est saint Thomas d'Aquin. Alors, dans cette première moitié du XVIIe siècle, archi-baroque, ce sont les adeptes d'Aristote qui dominent. Il faut bien avoir ça à l'esprit. En matière de cosmographie, la théorie admise, et c'est d'abord celle de l'Église, est directement héritée d'Aristote via un grand savant de l'Antiquité qui s'appelait Ptolémée d'Alexandrie. Selon cette théorie, la Terre est immobile au centre des sphères universelles. On est encore dans cette grande vision, d'ailleurs assez poétique, du Moyen-Âge, vous voyez. Galilée, lui, a connu l'influence des milieux planétaires platonicien de Florence, et le système de Copernic qu'il défend maintenant bec et ongles prétend tout expliquer à partir d'une idée fondamentale, révolutionnaire, c'est que ce serait le Soleil qui serait au centre et les planètes, dont la Terre qui tournerait autour de lui. L'erreur de Galilée, son péché si j'ose dire, ça va être de se croire assez fort socialement et intellectuellement pour se faire le porte-enseigne public de cette approche platonicienne fondée sur des calculs théoriques. Il faut dire qu'il a une certaine renommée, bien sûr, Galilée à l'époque, qu'il a obtenu depuis longtemps la protection des Médicis, qu'il a lui ont renouvelé depuis son retour à Florence, qu'il bénéficie dans la hiérarchie catholique de hautes relations, notamment avec le cardinal Barberini, qui est très intéressé par ses observations. Quand même, en 1615, le cardinal Bellarmine convoque Galilée à Rome. Et ça, ça n'est pas anodin, parce que Bellarmine, c'est le cardinal qui préside le Saint-Office, autant dire le tribunal ecclésiastique qui, au Vatican, est chargé de lutter contre l'hérésie. Là, ça commence à sentir le soufre d'ores et déjà. Les échanges restent polis et même respectueux. Les livres de Galilée ne sont pas mis à l'index des livres interdits. Mais en revanche, ceux de Copernic vont l'être, ceux de Kepler aussi, et de surcroît, Galilée va s'abstenir désormais de professer ses opinions fallacieuses. C'est en tout cas ce qu'espère, ce que pense l'Église. Vous voyez qu'il y a un premier gros coup de semonce. Vous allez me dire pourquoi cette intolérance de la part de l'Église catholique. Je ne vais pas entrer dans un débat de théologien, mais sachez tout de même que la théorie de Copernic entre en contradiction avec certains passages des Écritures. Par exemple, il est écrit dans la Bible que Josué arrête le soleil dans le milieu du ciel. Vous voyez bien qu'à partir du moment où vous dites que le soleil est au cœur et qu'il ne bouge pas, c'est un problème, si on fait une lecture en tout cas littérale de la Bible. Or, et c'est le plus important, l'époque n'est pas au relâchement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'entre la parution du livre de Copernic et la publicité que Galilée lui donne, il y a eu le fameux concile de Trente, au cours duquel les évêques ont décidé de répliquer à Luther, à Calvin, au protestantisme qui est en train de gagner peu à peu l'Europe. L'Église catholique essaie de reprendre la chrétienté en main. On appelle ça la contre-réforme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en oubliant ce contexte-là, Galilée a commis une très grave erreur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire de Galilée, Franck.
Ah oui, Galilée, qui est devenu une sorte de symbole de l'oppression de la science par l'Église. On va voir ce qu'il faut penser de tout ça. J'étais en train de vous dire, avant que ne se lancent les publicités, que Galilée n'avait pas tenu compte du climat particulièrement strict de la contre-réforme. Mes confrères historiens vont dire, ça y est, on devrait dire aujourd'hui de la réforme catholique, puisque c'est son nom. Et peut-être que s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est né lui-même, il a grandi, il a été élevé dans ce climat, donc il ne voyait pas ce qu'il y avait de nouveau dans l'air du temps, si je puis dire. De plus, disons-le, Galilée a une raison tout à fait personnelle de ne pas trop se méfier, c'est qu'en 1623, son protecteur, le cardinal de Florence, Barberini, est monté sur le trône de Saint-Pierre pour devenir le pape Urbain VIII. Et aussitôt, Galilée lui a dédié un nouvel ouvrage qui traitait des comètes, et il a été reçu à Rome par le pape. Et le pape l'a traité, pas tout à fait en ami, le pape n'a pas d'amis, mais enfin il l'a très bien traité. En tout cas, il l'a reçu 6 fois en 6 semaines, vous voyez, donc Galilée se dit, bon ben finalement je suis protégé. Et il va tellement se sentir protégé par le pape qu'il se sent du même coup libéré de ce serment verbal qu'il avait fait en 1615 au cardinal Bellarmine, rappelez-vous. Et c'est donc le cœur léger qu'il va rédiger ce qui doit être considéré comme son chef-d'œuvre en même temps que le maître ouvrage qui va causer sa perte, le fameux Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui est publié, je précise tout de suite, non pas en latin, mais en langue vulgaire. Ça, ça a été terrible, parce qu'à la limite, le traité serait rédigé en latin comme tant d'autres. On pourrait dire qu'il n'est pas destiné à tout public, mais à partir du moment où il est écrit en italien, n'importe qui peut le lire et donc entrer dans la controverse. 1000 exemplaires sortent de presse pour la première édition. On est là en 1630. Or, Urbain VIII, à ce moment-là, s'est rapproché de la France contre les Espagnols et en échange, il doit donner des gages aux Espagnols. On est toujours dans cette papauté des 16, 17e et même encore 18e siècle, dans un rapport de force et d'équilibre politique avec les grandes monarchies qui l'entourent, bien entendu. Le pape va hésiter d'autant moins à lâcher Galilée que ce dernier est très lié à certains milieux romains qui ont eu l'imprudence de prédire la mort imminente du Saint-Père, ça fait jamais plaisir évidemment. Bref, de malentendus en raison d'état, et je suis obligé de passer sur un certain nombre d'événements, le savant florentin va perdre la protection du pape, se retrouver entre les griffes de Bellarmine et des jésuites qui sont les fers de lance de cette contre-réforme, ainsi que les dominicains qui sont les tenants de la tradition, on pourrait même dire de la tradition pour la tradition, et qui partant se font les défenseurs aveugles du vieux système de Ptolémée dans cette affaire. Voilà comment on en arrive au procès de Galilée, sur lequel nous allons revenir dans un instant, et voilà comment on en arrive à ce verdict tellement choquant et à cette séance pénible du 22 juin 1633, au cours de laquelle, publiquement, Galilée va devoir, il est au couvent, dans la grande salle, du couvent des Dominicains de Sainte-Marie-sur-Minerve, et il va devoir faire amende honorable et déclarer « Moi, Galilée, etc. » âgé de 70 ans, donc en plus c'est le seul moment où il devrait prétendre à tous les honneurs et où on lui inflige cette humiliation publique, attendu qu'après avoir reçu du Saint-Office l'injonction d'abandonner absolument la fausse opinion que le soleil est le centre du monde et immobile, et que la terre n'est pas le centre et se meut, et la défense de tenir, de défendre et d'enseigner cette susdite fausse doctrine d'aucune manière, de vive voix et par écrit, et attendu qu'après avoir reçu notification que cette doctrine est contraire à la Sainte Écriture, j'ai écrit et fait imprimer un livre dans lequel j'expose cette même doctrine déjà condamnée, j'ai été jugé véhémentement suspect d'hérésie par le Saint-Office, j'abjure. Doit lire en tout cas Galilée, toujours en public, j'abjure, je maudis, je déteste mes susdites erreurs et je jure qu'à l'avenir je ne dirai plus et n'assurerai plus de vive voix ni par écrit aucune chose qui puisse donner de moi un tel soupçon. Vous comprenez que les défenseurs de la science et les amis de Galilée aient vécu cette humiliation publique comme une humiliation personnelle et que depuis tant de siècles maintenant, on continue de considérer Galilée comme un martyr. Était-il vraiment un martyr ? Oh, pas vraiment, pas tout à fait, nous dit Aimé Richard qui est avec nous dans ce studio et avec lequel nous allons revenir bien sûr sur toute cette affaire dans un instant. La vérité sur l'affaire Galilée, voilà le titre qu'Aimé Richard a donné à son ouvrage, publié chez François-Xavier de Guibert. Un ouvrage qui vient d'être réédité d'ailleurs dans une édition augmentée, Aimé Richard. Alors vous, ce que vous nous dites, c'est que Galilée a quand même outrepassé un peu les bornes et que ceux qui l'ont jugé à l'époque n'étaient jamais que fidèles au rôle qu'on souhaitait leur voir tenir.
Sans aucun doute, Galilée... Quand il est arrivé devant le cardinal Bellarmine qui était un homme d'une intelligence remarquable, il a d'ailleurs été canonisé, puis fait docteur de l'Église, etc. Et Galilée, finalement, avait promis de ne pas continuer à soutenir la thèse de Copernic, parce que le cardinal Bellarmine lui avait dit, écoutez, Copernic lui-même a dit, ce ne sont que des hypothèses que je suis incapable de prouver. Donc, prouvez-le, Seigneur Galilée, revenez me voir, et à ce moment-là, nous, Église, nous modifierons notre interprétation des Écritures. Alors, pourquoi est-ce que l'Église tenait tant à l'interprétation des Écritures ? Mais c'est à cause de Luther, parce que depuis 1520...
Oui, c'est ça, on est en pleine ascension du protestantisme, hein, partout en fait.
Et finalement, le drame du protestantisme, c'est que non seulement Luther, mais enfin nombre de ses disciples disaient « nous pouvons interpréter les Écritures », et avec des interprétations divergentes. Par exemple, alors que la base du catholicisme romain, c'est la transsubstantiation, Luther disait
la transformation,
la transformation entière, ouais, finalement, du pain en chair du Christ et du vin en sang du Christ. Luther, finalement, disait non, pas du tout, il y a la consubstantiation. Zwingli allait plus loin en disant il y a présence non pas réelle, alors, mais spirituelle du
Christ. Si on devait résumer la position de Galilée dans cette affaire, je ne parle pas de ses points de vue scientifiques, mais de sa position en tant que divulgateur d'un savoir. Il est à la fois l'homme qui n'a pas lui-même fait les découvertes. Les découvertes, c'est bien Copernic puis Kepler qui les font. Il est celui qui transmet ses hypothèses en disant ce sont des découvertes, et il ne tient aucun compte du contexte politique et religieux de l'époque, c'est-à-dire de la crispation de l'Église catholique romaine autour d'un certain nombre de dogmes pour essayer de contrebalancer l'expansion de la réforme. C'est ça l'histoire.
C'est le Concile de Trente qui est finalement l'expression qui va donner naissance à la contre-réforme, parce qu'on peut toujours dire la contre-réforme. Bellarmine le disait, s'il le disait. Bon, le Concile de Trente avait dit « Nous, Église catholique, sommes les seuls qui puissions interpréter les Écritures. Nous sommes les seuls. Et qui essaye de les interpréter d'une manière différente de nous est hérétique. »
Mais qu'est-ce qui lui a pris alors à ce Galilée d'écrire en langue vulgaire un ouvrage dans lequel, sans avoir effectué lui-même ces recherches-là, puisqu'encore une fois, il avait ses lunettes, lui, pour l'observation, mais il n'était pas un théoricien des astres.
Pas vraiment, non.
Qu'est-ce qui lui a pris d'écrire cette chose en langue vulgaire? Son but était de révolutionner la pensée ou de se faire un peu valoir, dites-vous?
Je pense de gagner de l'argent. Oui. Vous savez, toute sa vie, il a tiré le diable par la queue. Finalement. Il avait sur le dos une mère qui était une harpie. Il avait finalement un frère qui faisait des gosses à droite à gauche, puis qui revenait régulièrement complètement fauché. Il s'était porté caution pour la dot d'une de ses sœurs qui n'arrivait pas à payer. Il était menacé d'aller en prison pour dette. Donc,
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'image que vous nous donnez de Galilée n'est pas celle qu'on a si longtemps véhiculée. On est loin du Galilée de Brecht ou d'autres qui ont voulu faire de Galilée une sorte de martyr de la science. Alors, avec un scientifique qui se trouve être maître de conférence à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, qui s'appelle Michel Faucheux, nous allons voir dans un instant ce que la communauté scientifique, comment la communauté scientifique reçoit une telle remise en cause.
Sur Europe 1, extrait de Planète de Gustav Holst. Et pour évoquer Galilée cet après-midi, aux côtés de Franck Ferrand, Aimé Richard et Michel Faucheux.
Michel Faucheux qui vient de publier aux éditions de l'Archipel un ouvrage sur les folies scientifiques, idéologies et technologies. Ça s'appelle « La tentation de Faust ou la science dévoyée ». Et à la fin de cette émission, j'aimerais que vous nous donniez d'ailleurs le fond de votre propos, parce que, évidemment, l'ouvrage en question ne porte pas sur Galilée. Mais ce qui m'a amusé, c'est que Galilée, évidemment, comme emblème, figure parmi les toutes premières figures que vous convoquez dans ce livre, hein, on arrive dès les premières pages. Et l'image que vous donnez de Galilée, vous, j'allais dire, est plus classique, elle est moins hétérodoxe que celle d'Aimé Richard.
Elle est plus orthodoxe. Alors, je ne voudrais quand même pas défendre ici l'orthodoxie, je vais essayer de ne pas tout à fait le faire, de ne pas être limité à ce rôle. Ce que je voudrais dire, c'est bien sûr que dans l'histoire des sciences, il y a toujours des légendes dorées, et en littérature, en philosophie et dans les sciences. Et je ferai à la limite une distinction, comme l'aurait faite Gustave Lançon dans le domaine littéraire, qui consisterait à séparer l'homme et l'œuvre. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue de l'histoire des idées, il n'en demeure pas moins que l'apport de Galilée apporte une révolution, non pas simplement scientifique, mais je dirais même culturelle, intellectuelle, qui conduit à quoi ? Eh bien, à décentrer notre rapport au monde. La Terre n'est plus le centre du monde. Elle est une planète qui tourne autour du Soleil. Et ceci apporte intellectuellement dans les sciences, mais aussi dans les arts, au XVIe, au XVIIe et plus tard, un décentrement intellectuel dont nous sommes les héritiers. Il y a une sorte de
séisme. Donc on peut dire que Galilée est bien celui qui en tout cas incarne, même si après quand on entre dans le détail de sa biographie c'est plus complexe, mais il incarne et il reste aujourd'hui pour nous le symbole de celui par qui la vérité scientifique progresse en fait, c'est ça ?
Voilà, le symbole à la fois d'une autonomie de la science qui se conquiert contre l'Église, et puis aussi quelque chose qui me tient à cœur. Cette mise en avant, même si elle est implicite, hein, de la question de la technique. Parce qu'en définitive, ce qui va permettre de faire œuvre de science, c'est un instrument technique qui est le télescope qui permet de voir l'invisible. Et la science va désormais intégrer la dimension technique dans son exercice. Et voilà quelque chose qui est neuf, parce que précisément, la science va nous livrer une image du monde mathématisée, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne correspond plus à l'image que nous
traditionnelle, oui, c'est ça, bien sûr.
Voilà, oui. Voilà une intense révolution.
Alors, vous venez de me faire passer, Aimé Richard, une lettre du cardinal archevêque de Lyon, Primat de Gaulle, à propos de votre ouvrage. Nous reparlerons, si vous voulez, à la toute fin de cette émission, de la position actuelle de l'Église catholique vis-à-vis de Galilée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les récents papes ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous parliez des juges de Galilée. Je parle bien de ceux du deuxième procès. Hein. C'est-à-dire que vous nous dites Galilée n'était pas tout à fait blanc comme neige dans cette affaire, et vous nous dites aussi ces juges qu'on nous présente comme d'affreux personnages depuis tant de siècles, ils avaient leur logique et c'était aussi des savants.
Mais vous avez raison. Mais déjà en 1616, le premier procès de Galilée,
déjà,
finalement, Bellarmin avait demandé l'avis du grand astronome de l'époque qui était Tycho Brahe. Tycho Brahe est à 10 coudées finalement au-dessus de Galilée. Bon, or Tycho Brahe avait dit oui, le système géocentriste finalement est valable. Et lui, il avait mis au point un système qui tenait parfaitement la route, qui consistait à dire tourne autour de la Terre, la Lune et le Soleil, mais toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et avec son système, il arrivait à faire ce qu'on a toujours appelé sauver les apparences, c'est-à-dire sortir des tables qui permettaient de prédire la position de telle ou telle planète.
D'ailleurs, n'empêche que pour notre, du point de vue de notre pensée moderne, ces espèces d'accommodements avec la réalité ou avec ce qu'on peut appréhender du réel sont quand même pour le moins discutables. Mais il faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque, c'est ça qui est important.
Vous savez, Einstein disait, laissez-moi une semaine et je vais vous démontrer finalement que toutes les planètes, y compris le Soleil, tournent autour de Mercure. Quoi. C'est très compliqué et on arrive finalement à faire toutes les projections qu'on veut. Et ce que n'a jamais fait Galilée, c'est de démontrer quoi que ce soit, pas plus que Copernic. Copernic disait, c'est un système que j'ai été pêché chez les Grecs anciens, en particulier les Pythagoriciens. Mais alors, je suis bien incapable de le démontrer.
Le tribunal du Saint-Office, autant dire l'Inquisition, hein, c'est ce tribunal du Vatican qui était chargé de lutter contre l'hérésie, qui à l'époque, du point de vue de l'Église catholique, se répandait dans toute l'Europe et dans le monde entier. Ce tribunal du Saint-Office va quand même condamner de façon très ferme Galilée. Alors ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas eu de torture, il n'y a pas eu d'emprisonnement.
Rien du tout. Galilée n'a jamais fait un jour de prison de sa vie, il n'a jamais a été torturé. Pour vous donner une idée de la manière dont il était traité, c'est quand il comparaissait devant le tribunal de l'Inquisition, il habitait chez le procureur du dit tribunal qui lui avait laissé son appartement. Quand il a été condamné, entre autres choses, il avait été condamné à dire les psaumes de pénitence une fois par semaine. Il a demandé au pape qui lui a accordé que ce soit sa fille religieuse qui les dise pour lui. Donc ce qui prouve qu'on était entre gens de bonne compagnie et il n'était pas maltraité du tout.
Il était, Galilée, par ailleurs très respecté hein, à l'époque, Galilée, très connu. Il recevait chez lui des visiteurs extrêmement distingués. On voulait le voir, on voulait lui parler. Et même après sa condamnation...
Bien sûr, quand... et on y arrivait parfaitement, puisque après sa condamnation à la prison dite perpétuelle, il a passé 6 mois chez un ami qui était archevêque. Et ensuite, il a été dans sa villa... où et quand il était remarquablement bien installé.
Je vais raconter ça dans un instant. Et quand il arrive chez cet ami archevêque, la population entière de la ville vient de l'accueillir aux portes. Hein. Donc il y a quand même. Est-ce qu'on peut dire que, alors ça vous traitez pas vraiment cet aspect vous dans votre essai biographique, mais est-ce qu'on peut dire que Galilée a été un peu le porte-parole d'une population qui aurait aimé qu'on desserre un peu les cadres de pensée.
Non, vous ne croyez pas. Non, la population de cette époque était profondément religieuse.
Alors d'où vient sa popularité, alors ?
Vous savez, la popularité à l'époque, elle était réservée quand même à une petite classe intellectuelle qui se passionnait pour le débat. Il n'a pas été condamné d'ailleurs parce qu'il avait dit que la terre était... Il a été condamné parce qu'il n'avait pas respecté ce qu'il avait signé en 1616 au premier procès où il s'était engagé à ne plus jamais enseigner finalement la théorie du géocentrisme. Or, il l'a fait dans l'ouvrage que vous avez cité tout à l'heure. Au passage, d'ailleurs, il s'est moqué du pape en l'appelant Simplicio, parce qu'il n'a pas plu au pape du tout.
C'est-à-dire que le pape s'est reconnu dans le personnage de Simplicio, ce qui n'était peut-être pas sûr, d'ailleurs.
Les dominicains l'ont reconnu et ont fait passer le message au pape.
Oui, c'est ça. Voilà. Les dominicains ont toujours plus ou moins fait la police de l'Église, disons-le. Bah,
c'est-à-dire, les dominicains, vous savez, d'abord, on les appelle les chiens du Seigneur, dominicanes, c'est ça, ou les chiens noirs et blancs du Seigneur, et c'est eux qui... Bon, ceci étant, il fallait qu'il y ait une politique. Regardez, par exemple, vous n'avez pas eu de guerre de religion en Italie, parce qu'il y avait une inquisition. Vous avez eu des guerres de religion en France et en Allemagne.
Finalement. Alors si maintenant nous en venons à défendre l'inquisition au nom de la paix civile, je sens que je vais avoir beaucoup de réactions au standard.
En Espagne, en 3 siècles, il y a eu 300 brûlés, finalement, c'est ça. En Allemagne,
vous allez nous dire que ça fait moins de victimes que les guerres de religion.
Oui, moins, la guerre de 30 ans a dû en faire 3 ou 400 000.
D'un point de vue purement arithmétique, vous n'avez sans doute pas tort. Aimé Richard, nous vous retrouvons dans un instant avec Michel Faucheux pour parler de Galilée et pour nous poser un certain nombre de questions évidentes, de questions connexes sur la science et sur son statut.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il s'est rétracté, Galilée, quand on lui a dit tu seras brûlé, si contre les vents et marées tu maintiens que la terre est ronde. Si devant le docteur conseil, parlant latin et chamarré, tu dis que terre pour soleil, comme Catin mais de sa ronde.
Galilée de Jean-Roger Caussimon, jusqu'à 14h sur Europe 1.
Là, on est dans l'image d'Épinal.
Oui, tout à fait. Franck Ferrand et ses invités évoquent pour vous une partie de la vie de Galilée.
Alors, Galilée donc a été condamné par le Saint-Office. Il a dû faire amende honorable, nous l'avons vu. Mais il a bénéficié, nous dit Aimé Richard, d'une réelle clémence de la part de ses juges. Ni avant le procès, ni pendant, ni après, il n'aura passé une seule nuit en prison. Il a par ailleurs échappé à la torture. On ne l'en a même pas menacé. Vous savez que souvent, lorsque les tribunaux de l'époque épargnaient la question aux accusés, ils leur faisaient au moins montrer les instruments de torture pour leur donner à réfléchir. Mais pour Galilée, ça n'a même pas été le cas. Dans une supplique au pape, le savant va demander tout de suite que sa réclusion à Rome soit commuée en réclusion à Florence. Alors Urbain VIII se fait quand même un peu prier. Il ne donne pas satisfaction tout de suite à son ancien protégé, mais il l'envoie en résidence surveillée chez l'archevêque de Sienne, ce qui n'est pas bien méchant, c'est vrai. Et du reste, le jeune archevêque de Sienne, qui est très apprécié du pape, va voler à son tour au secours de Galilée et au bout de 5 mois, le savant est autorisé à rentrer, non pas tout à fait à Florence, mais tout près à Arcetri, à condition qu'il ne reçoive pas chez lui beaucoup de monde à la fois. Voilà la condition qu'a fixée le pape. Vous avouerez que tout ça est un peu léger, c'est vrai. Il résidera dans une jolie villa surnommée le Petit Joyau, avec une vue très belle sur les collines et sur le couvent de Saint-Mathieu. La sévérité est donc toute relative. Attention, encore une fois, je ne nie pas la violence mental qui a été faite à Galilée en l'obligeant à se renier en public. Mais c'est relatif comme violence, surtout lorsqu'on connaît son attitude de provocation ouverte. Nous venons d'en parler. Le retour de Galilée chez lui sera bientôt obscurci par la mort d'une de ses filles, sa préférée, sœur Marie-Céleste. Il faudra quelque temps au savant pour retrouver goût à l'existence. Il y fut aidé, nous raconte Aimé Richard, par sa seconde fille, sœur Arcangela, et par les nombreuses visites qu'il recevait d'amis et d'étrangers, dont le grand poète anglais Milton, qui était très jeune à l'époque. Tous ses amis, tous ses visiteurs pressent Galilée de ne pas se laisser impressionner par la condamnation, dont les faits, avec le temps, s'atténuent forcément. Il doit, lui disent-ils, rédiger un nouveau dialogue. Ce sera le discours sur deux sciences nouvelles, terminé à la fin de 1636, et qui n'a cette fois aucun lien avec la théologie. Il s'agirait plutôt d'une sorte de manuel de physique consacré essentiellement à l'étude du mouvement. Pas question pour autant de publier ce dernier opus en Italie. Vous vous doutez bien que l'Inquisition veille au grain. Galilée va confier finalement son manuscrit au comte de Noailles, ambassadeur de France, en vue d'une publication, j'allais dire comme toujours, aux Provinces Unies, qui est le véritable centre de l'édition libre à cette époque. Le discours est publié à l'aide chez Elsevier en 1638. Peu de temps après, Galilée va devenir aveugle. On en profite à Rome pour atténuer encore les sanctions et pour l'autoriser à se rendre à Florence. En 1639, il héberge un jeune mathématicien florentin, Viviani, qui sera son disciple jusqu'à la fin. Il me paraît évident qu'en philosophie, le doute est le père de l'invention, ouvrant la voie à la découverte de la vérité, écrit à ce moment-là Galilée dans une de ses lettres. Les questions et les objections que ce jeune homme, il parle donc de Viviani, mon élève et invité, me pose depuis plusieurs mois à l'encontre du principe que j'ai supposé exact dans mon traité sur le mouvement accéléré, qu'il a étudié avec beaucoup d'attention, m'ont obligé à le repenser pour pouvoir le lui démontrer, et j'ai fini à ma grande joie et à la sienne par y parvenir. Il en a écrit la démonstration car je suis aveugle et j'aurais été perdu au milieu des schémas et des figures nécessaires. Je cite cette lettre qui est elle-même citée par Aimé Richard. À l'automne 1641, Viviani sera rejoint chez Galilée par un autre physicien célèbre, Torricelli, mais le maître décline aussitôt, il va s'éteindre dans la nuit du 8 janvier 1642 et par ordre du grand-duc de Toscane, son corps est enterré, suprême et public hommage est enterré dans la merveilleuse église Santa Croce de Florence. Le mausolée qui abrite aujourd'hui sa dépouille n'a été conçu qu'un siècle plus tard. Michel Faucheux, on a quand même un peu égratigné Galilée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le rapport d'autorité qui a existé entre science et politique, et en l'occurrence science et religion, ce qui à l'époque était quand même assez proche, ce rapport a perduré très longtemps, y compris dans une période très récente. Au XXe siècle encore, un certain nombre de scientifiques doivent montrer patte blanche.
Bien sûr, ce rapport entre science et religion a perduré. On pourrait citer l'affaire Darwin, le darwinisme du XIXe siècle, et les problèmes que connaît Darwin, qui lui aussi opère un nouveau décentrement. Après celui de Galilée, c'est le décentrement de l'homme, hein, qui n'est plus la créature installée au milieu de la création, mais une créature au milieu produit d'une évolution naturelle. Bien. Mais pour répondre plus précisément à la question, ce dont on s'aperçoit, c'est que la science, si elle revendique son autonomie, a pu aussi subir l'influence de la politique, des idéologies d'État. C'est vrai dans le pan-germanisme, le nationalisme allemand pendant la guerre de 14. Un scientifique comme Fritz Haber, qui va déployer les gaz en avril 1915, le fait au nom du nationalisme allemand. Pour lui, il n'y a pas de contradiction. Et lorsque, en avril 1915, il déploie la première attaque au gaz chloré, provoquant des milliers de morts chez les Français qui sont en face, il n'est pas tout à fait content. Pourquoi ? Parce qu'il se dit « on aurait pu faire plus, ça aurait pu être plus déterminant ». Et lorsque, quelques temps après, il organise une fête chez lui, parce qu'il a été promu, chose exceptionnelle pour un scientifique, au grade de capitaine. Alors, il est très content, fait une grande fête. Simplement, son épouse, qui avait peut-être une réflexion éthique un peu supérieure, se suicidera dans le jardin ce jour-là, voyant les dérives, etc. Et puis, évidemment...
Vous nous dites, exactement dans le prolongement de ça, ce que vous dites dans votre ouvrage « La tentation de Faust », c'est que la science se laisse peu à peu gagner par la technique, et que plutôt que d'une science, c'est-à-dire ça a toujours été plus ou moins le cas, mais ça prend des proportions évidemment d'autant plus grandes que la technique, que la technologie est avancée, et on peut désormais parler d'une technoscience qui quitte les rails du savoir et de la recherche en fait.
Oui, là vous allez me permettre d'être un petit peu moins orthodoxe que tout à l'heure.
Et vous êtes orthodoxe quand on parle de Galilée, mais moins quand on parle de la science actuelle finalement.
Voilà, absolument. Je veux dire, mon hypothèse, c'est que il y a un grand bouleversement qui se fait dans la science au XIXe siècle, ce que je nomme une rupture anthropologique. La science devient technoscience. Hein, elle est tout orientée par la technique. Et loin que la technique alors vise simplement à transformer le monde, elle le réinvente, elle l'invente, elle le conçoit. Eh bien, dans ce bouleversement-là, il faut comprendre que la place de l'homme s'en trouve elle-même modifiée. Et à la suite des exterminations, de la Shoah, où l'homme, au XXe siècle, devient cadavre fabriqué, selon l'expression de Heidegger et de Hannah Arendt, eh bien on peut se poser la question si toute une évolution de la technique ne se fait pas sur une idée implicite d'une sorte d'obsolescence de l'être humain, comme dira le philosophe Gunther Anders, que la machine permettrait d'améliorer, d'augmenter.
Donc comme si l'être humain devenait presque un terrain lui-même d'expérimentation, voilà, pour aller vers autre chose,
voilà,
et vers moi, quelqu'un d'autre.
Absolument. Et moi, qui donc est dirigé un département des humanités à mon école, l'INSA de Lyon, précisément, je m'insurge contre cette idée que l'homme humain est obsolète, qu'il faut l'orienter, que des philosophies comme le transhumanisme postulent effectivement cette mort de l'homme. Voilà.
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Voilà. Eh bien, là, peut-être y a-t-il à repenser cette question éthique et surtout à s'interroger sur ce mécanisme de la technique qui, à bien des égards, nous est invisible.
Aimé Richard, dans les dernières années du XXe siècle, l'Église catholique est revenue sur la condamnation de Galilée. Oui. C'est le pape Jean-Paul II qui a ouvert une commission en 1992.
Oui. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. La condamnation de Galilée était parfaitement juste. Hein, Galilée a été condamné en 1933 parce qu'il n'avait pas tenu les promesses qu'il avait signées de sa main en 1916.
Quand vous dites qu'elle était juste, vous voulez dire qu'elle était... selon les normes de l'époque, non, elle était judiciairement fondée.
Elle était juste. L'Église s'appuyait non pas seulement sur son interprétation des Écritures, mais disait « nous interprétons les Écritures, finalement, appuyées sur Platon, appuyées sur Aristote, appuyées sur Ptolémée et appuyées sur Tycho Brahe. Donc on ne peut pas nous demander davantage, finalement. Ce monsieur qui vient nous proposer une théorie qu'il ne... peut pas
démontrer lui-même.
Démontrer. D'ailleurs, il faut.
Mais il y avait
passage...
quand même, de la part des juges, il y a là une évidente hypocrisie, car ils sont parfaitement au courant des travaux de Copernic et de Kepler, par ailleurs. Vous montrez d'ailleurs qu'ils les connaissent
bien,
très bien.
Mais Copernic a toujours dit, y compris dans son testament, d'ailleurs qu'il n'a pas réalisé tout seul, mais qu'il s'agissait d'hypothèses. Hein. Or, finalement, vous savez, Galilée était un assez piètre astronome. Finalement, il y a trois points dont il faut parler. Il a toujours nié l'existence des comètes. Hein, il a dit les comètes sont des illusions d'optique, ce qui est quand même pas mal. C'était la théorie d'Aristote qui reprenait. Il a nié finalement la grande découverte de Kepler qui était les ellipses, qui était la seule chose qui permettait de sortir des cercles et de calculer enfin finalement. Et surtout, il a toujours défendu l'idée que les marées étaient dues à la rotation de la Terre, ce qui était absolument idiot. Kepler lui-même le lui avait dit en disant « mais non, ça ne tient pas debout finalement ». Donc ça fait quand même trois bourdes majeures. Comment voulez-vous finalement faire confiance à quelqu'un qui fait de pareilles bourdes quand il vient vous dire « mais je suis sûr que... la Terre tourne autour du Soleil ». On dit, bah, écoutez, démontrez-le. Vous avez d'ailleurs quelque chose en ce moment qui est assez amusant, qu'est-ce qu'on appelle le créationnisme scientifique. Vous savez, c'est des écoles américaines qui disent, voilà, ça ne peut pas être le
Darwin. Il n'y a pas d'évolution, on parlait de Darwin d'ailleurs à
l'instant. Le choix du hasard. Or, la science officielle qui défend le darwinisme, qu'est-ce qu'elle dit aux créationnistes? Elle dit, mais prouvez-le. Donc elle se retrouve dans la position qu'avait l'Église catholique.
Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a toujours une pensée dominante et qu'elle a besoin qu'on lui prouve les évolutions.
Ça, finalement, la science, c'est quoi? C'est d'abord des mesures, à partir des mesures, une hypothèse, et ensuite, on essaye de prouver cette hypothèse. Si on n'arrive pas, elle demeure une hypothèse.
Nous sommes en train de comprendre, Aimé Richard, que vous êtes donc plus royaliste que le roi, et qu'alors même que, depuis 1992, le Vatican fait fortement machine arrière sur l'affaire de... sur la condamnation de Galilée, et que d'ailleurs maintenant des messes sont même célébrées à la mémoire de Galilée, etc. Je cherchais la dernière, là, je crois que c'était en 2009 en l'occurrence. Mais
Il en a bien besoin d'ailleurs.
J'ai l'impression qu'on ne vous rendra jamais Galilée sympathique. La vérité, votre vérité en tout cas, sur l'affaire Galilée,
la vérité,
c'est édité chez François-Xavier de Guibert. Et puis La tentation de Faust ou La science dévoyée qui pose de grandes questions sur notre époque, c'est édité chez L'Archipel. Merci Michel Faucheux, merci Aimé Richard d'avoir été des nôtres.
Et merci.
Et Elena Morna est de retour. Bonjour,
oui,
Elena.
Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. Alors on va revenir, on va mettre les pieds bien sur terre. Là on va quitter l'univers de Galilée et on va pénétrer dans vos maisons. Je suis sûre que vous serez intéressés par cette émission Franck, puisque nous allons parler des salles de bain. Vous savez, les salles de bain, elles ont beaucoup évolué. C'est aujourd'hui la deuxième pièce que les Français rénovent quand ils emménagent dans une nouvelle maison. Et elle est complètement différente de celle qu'on a connue quand on était plus jeune. Le bidet, tiens, par exemple.
Oui, ça voilà. Disparaît.
Écoutez, c'est très, très, très sympa comme émission. Je vous invite d'ores et déjà à appeler au 3921 ou sur europe1.fr si vous avez des questions pour aménager votre salle de bain.
Il y a des gens qui ont de si belles salles de bain qu'ils organisent des dîners dans la salle de bain.
Ah oui.
Merci beaucoup, Elena. Et nous nous retrouvons demain, Caroline.
À demain, Franck, 13h.